King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, nous recevons l'écrivaine Audrey Wilhelmy, une très jeune écrivaine née en 1985 et qui est, je pense, une des voix singulières de sa génération qu'il faut suivre absolument. Son premier roman Os, publié en août 2011 aux éditions Leméac, a été nominé pour le Prix des libraires du Québec en 2012 et finaliste au Prix du gouverneur général du Canada en 2012. Son deuxième roman, Les Sangs, a été publié aussi chez Leméac en août 2013, a été finaliste au Prix des libraires du Québec en 2014 et présentement finaliste pour le Prix France-Québec 2014. De plus, le roman Les Sangs sera aussi réédité en France aux éditions Grasset. Elle a reçu en janvier 2014 la bourse écrivain de la Fondation Jean-Luc Lagardère, remise pour la poursuite de son travail littéraire. Aujourd'hui, dans un premier temps, Audrey va nous parler de ses deux livres, Os et Les Sangs, et de certains aspects de sa démarche d'écrivaine. Dans un deuxième temps, Audrey nous lira un extrait de chacun de ses romans. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Audrey Wilhelmy. Bonjour Audrey, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Audrey, j'aimerais d'abord qu'on parle d'Os et de votre rapport aux contes et aux mythes. Hein? D'abord parce que vous citez un passage du Petit Chaperon Rouge de Perrault dans l'un des deux exergues du livre. Aussi parce que plusieurs de vos personnages portent des prénoms mythiques, hein? Jonas, Noé, Orphée, j'en passe. Mais également parce que votre personnage principal, Noé, s'apparente à une sirène dont le chant fascine les autres personnages. Bref, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'importance de ces intertextes-là dans votre démarche.
Quand j'ai commencé à travailler sur Os, c'était très clair que je voulais modifier un conte, partir des contes pour aller ailleurs. Pour moi, en fait, la violence qui est implicite aux contes traditionnels me fascinait beaucoup parce que je pouvais pas concevoir qu'on raconte des histoires comme ça à des enfants. Ça a été encore plus vrai avec le Barbe Bleue qui a inspiré Les Sangs, qui est une histoire absolument épouvantable. Donc, je trouvais très intéressant de finalement, non pas pervertir les contes, mais en faire ressortir le côté pervers qui était déjà très présent à l'intérieur.
Ah, c'est vraiment intéressant.
Donc j'ai travaillé en partie en ce sens-là, en tout cas. Le Petit Chaperon Rouge a émergé au fil de l'écriture, mais après ça, l'intertexte est devenu tellement flagrant, tellement évident que je trouvais qu'il fallait plutôt l'assumer, d'où l'exergue, puis l'indiquer d'une certaine façon. Donc, comme dans Les Sangs, on retrouve certains extraits de Barbe Bleue dans un des journaux des femmes, je me suis dit que c'était plus sage de l'assumer et de le montrer au lecteur comme une trace du processus lui-même. Puis, j'ai un grand plaisir à déformer les contes. J'ai travaillé sur les contes et les mythes. J'ai travaillé sur les contes pour les deux premiers. Pour le troisième, je suis en train de travailler sur les mythes. D'accord. Donc, les mythes chrétiens, en l'occurrence. Donc, c'est assez amusant comme travail d'écriture.
Mais c'est vraiment intéressant pour le lecteur. On a bien hâte de voir le troisième. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais qu'on enchaîne en parlant, dans le fond, du deuxième exergue, hein, qui est tiré d'un livre d'Anne Hébert. Moi, dès les premiers mots d'Os, j'ai vraiment senti une forme de filiation, je pourrais dire, avec Anne Hébert, hein, dans l'imaginaire qui est très onirique, à cause de ce village près de la mer qui rappelle un peu l'univers des fous de Bassan, avec le prêcheur Lowe un peu fou qui faisait écho pour moi au pasteur Brown, un peu dans Les Fous de Bassan, à cause également de votre travail sur le rythme et les leitmotivs. Hein. Dans le premier chapitre, on a Groumé est morte, c'est la mort de Groumé qui rend les détails importants. Groumé est morte et ses parfums infects sont enfin 6 pieds sous terre, mais Groumé est morte, il se sent vieux. Donc, pas à la suite, tous ces extraits ne sont pas à la suite les uns des autres, mais ils viennent rythmer le premier chapitre et c'est vraiment une très belle musique. Bref, dès le premier chapitre, où on entre dans votre univers très personnel et très singulier, même si je voyais une parenté. je me suis dit, waouh, c'est là une voix qui a quelque chose d'Hébertien. Hein? Donc, je me demandais, est-ce que c'est une de vos auteurs forts? Est-ce qu'elle a été importante ou non dans votre démarche de lectrice et d'écrivaine?
Elle a été très importante pour moi au secondaire. J'ai lu Les Fous de Bassan en secondaire 5.
D'accord.
Ça a été une lecture qui m'a vraiment bouleversée, en fait, qui m'a préoccupée beaucoup, qui m'a fait poser des questions sur ce qu'était la littérature et tout ça.
Ouais.
Et ensuite, quand j'ai écrit Os, j'avais relu Les Fous de Bassan à proximité. Puis au cégep, j'ai lu aussi Les Enfants du Sabbat.
Ah oui.
Puis ça aussi, ça m'avait
les
vraiment, vraiment impressionnée.
Oui, vrai,
puis une des choses qui me sidérait à l'époque, puis qui n'est pas tout à fait exacte finalement, c'est que dans ma tête, Anne Hébert écrivait en même temps que Gabriel Roy, à peu près.
Mm.
Et de me dire que Gabriel Roy écrivait ce qu'elle écrivait,
ouais,
et qu'Anne Hébert écrivait ce qu'elle écrivait à la même époque,
ouais,
c'était comme très incongru dans mon esprit. Puis, alors que l'autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'était la personnalité d'écrivaine d'Anne Hébert, qui était une femme finalement très lumineuse, très... Ouais. Très, je peux pas dire heureuse, je la connaissais pas, mais qui semblait lumineuse, c'est ça, joviale,
oui,
épanouie.
Et ce côté violent
dans son écriture,
oui.
Puis le contraste entre les deux me rappelait un peu finalement ce que moi je suis. Je pense vraiment pas que je suis quelqu'un de lugubre ou quoi que ce soit, et pourtant cet univers-là fait quand même partie de mon imaginaire.
Oui.
Donc, c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de processus d'identification. C'est plus vrai pour Os. Je dois dire que dans les sens, cette inspiration-là, elle n'est plus vraiment là. Le travail sur l'écriture, l'univers décalé, violent, ça va probablement toujours un peu faire partie de ce que je fais. Parce que,
c'est
ce que je fais. C'est pas aussi nettement inspiré que dans Os. Mais je pense pas que dans Os c'était conscient au départ.
Ouais.
Je m'en suis vite rendu compte. Puis après ça, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transforme mon univers pour qu'il soit pas ça? Ou je l'assume tout simplement, puis je le mets en exergue. Donc comme ça, il y a absolument aucun malaise
Non, puis en même temps, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est profondément singulier et personnel, mais on sent une filiation.
Je pense qu'il y en a une très, très réelle aussi, surtout pour Os, mais qui finalement fait partie de moi, puisque ces lectures-là ont été bouleversantes les deux et sont arrivées à des moments où j'étais encore très malléable, mettons.
Oui,
donc,
tout à fait. De toute façon, c'est Robert Lalonde dans un de ses livres qui disait que notre voix est faite de plus de chants qu'on pense. C'est dans des nouvelles d'amis très chères. C'est ça, moi, je la retiens parce que, effectivement, je trouve ça bien formulé. Enfin, j'aimerais qu'on aborde la structure de votre roman Les Sens, justement, votre dernier roman. La structure qui présente 7 voix différentes de femmes qui écrivent des journaux, qui ont le même désir d'être tuées par le même mari, mais elles sont très caractérisées et ça ne devient jamais répétitif. Alors, j'aimerais dans le fond que vous me disiez comment vous avez fait pour travailler chacune de ces voix-là, comment on fait pour que chacune de ces voix narratives-là soit aussi personnelle et apporte quelque chose de nouveau à l'histoire, et comment éviter de sombrer dans la redondance, parce que c'est là tout un risque, mais c'est un si beau risque en même temps.
C'était vraiment, en fait, le but de ce projet-là, qui reste un projet universitaire également. Donc, il y a peut-être un côté, certaines personnes ont dit que c'était scolaire. Je pense pas que ce soit scolaire, mais il y avait quand même un travail réel sur les voies narratives. Il y avait un objectif concret, comme écrivaine, de maîtriser ça. J'avais essayé de faire parler des jeux dans Os, et c'était vraiment pas concluant. Donc, je me suis dit, je vais me construire un projet qui va obliger, finalement, à juste faire parler des jeux, puis des jeux différents. Mais là, le fait que ce soit des personnages féminins qui vivent les mêmes choses, qui désirent les mêmes choses, c'était comme un défi supplémentaire.
Ouais.
Mais donc, c'est ça. C'était vraiment l'objectif de travailler les voies narratives. Pour le faire, ben d'abord, les femmes n'ont pas été écrites chronologiquement.
D'accord.
J'ai été... selon celle qui me venait, je savais... Mm-hmm. J'avais un plan, je savais que les trois premières et les deux dernières remplissaient un rôle narratif précis, puis qu'il y en avait deux entre les deux qui pouvaient être absolument n'importe quoi, puis que c'était pas grave.
N'importe où, placé n'importe où dans le roman.
Non, il fallait qu'elles soient au centre, mais elles n'avaient pas un rôle dans la progression de l'intrigue. D'accord. Alors que les trois premières et les deux dernières ont un rôle dans la progression du meurtrier, dans sa formation. Les deux du centre, donc, me laissaient beaucoup de flexibilité. Elles ont été très... Il y en a une qui est en colère pendant comme 30 pages. C'est vraiment, c'était vraiment très drôle à écrire. L'autre, pour moi, donne un peu les clés de lecture et beaucoup plus raisonnée, mais elle dit un peu ce que j'ai voulu faire dans le projet. Après ça, la voix qui m'est venue le plus naturellement, c'est celle de la troisième femme, qui est une danseuse. J'avais lu... Qu'est-ce que j'avais lu? J'avais relu L'amant de Duras pour... Quand j'ai écrit Les femmes, j'ai lu beaucoup d'autofiction féminine pour pouvoir voir différentes voix narratives, puis voir comment différentes femmes parlent
au jeu,
ouais. puis comment elles parlent de leur intimité. Donc, au départ, ça a été beaucoup à partir de lectures que j'ai faites. Et quand j'ai écrit, donc, La danseuse, je venais de lire Duras, et ça a tout de suite donné comme une impulsion au texte. Je pense pas que Duras soit particulièrement observable dans sa façon de s'exprimer, mais pour moi, ça a été vraiment déterminant. Et moi, qui prends généralement beaucoup, beaucoup de temps à écrire, celle-là, je l'ai écrite en 4 jours, puis elle a été à peu près plus retouchée après. Là. Ça a été pas mal définitif. Donc, mais il y en a d'autres qui m'ont pris comme des mois à écrire. Fait que ça, c'était très inégal. Il y avait une question aussi d'affection avec les personnages. Ouais. J'ai tenté de mettre en chacune d'elles un trait puis de l'exacerber au maximum. Donc c'est ça. Ça a été de pousser plus loin une seule chose par femme qui a permis de les distinguer les unes les autres.
D'accord. Juste pour nos auditeurs, peut-être qu'on peut dire que Os au fond, c'était aussi le volet création de votre mémoire de maîtrise et que l'essence, ça se trouve être le volet création de votre doctorat.
Exactement.
En pratique des arts.
Études des pratiques des arts, oui.
Études des pratiques des arts à l'UQAM. Juste parce que vous l'avez mentionné que c'était universitaire, alors je vous laisse situer nos auteurs, mais nos auditeurs. Pardon. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir répondu à mes questions sur vos livres Os et les sangs. Maintenant, écoutons Audrey Wilhelmy nous lire un extrait du roman Os.
Ils sont assis sur une chaloupe renversée qui sert de banc devant le magasin général. La porte du commerce est ouverte. Ils ont pris une bouteille de cidre rangée dans la glacière et aussi une poignée de bonbons dans le bocal près de la caisse. Ils avaient convenu, les bonbons sont pour les enfants, mais Naël les engloutit l'un après l'autre sans les goûter. Devant le presbytère, les pêcheurs errent en se traînant les pieds dans la cendre. Quelques-uns secouent la poussière avec des rames, comme si ça pouvait servir à quelque chose et ramener l'eau. Sur la plage, le sable est noir du frasile que le vent a porté. La première fois qu'au village ils ont trouvé Noé dans les cordages, les adolescents étaient à peine nés. C'était un matin en avril, froid mais blanc de soleil. Elle gisait dans les filets, juste comme aujourd'hui, sa petite robe d'enfant mouillée et crasseuse plaquée sur son corps. Il ne la connaissait pas. Le vieux Jonas avait dit « Impossible qu'il y ait eu naufrage, il fait beau ». L'eau était descendue du presbytère, sa soutane claquait au vent. Grum le suivait, pas assez loin derrière. Arrivé près du corps, la sorcière avait sorti une flasque de rail d'entre ses gros seins et elle avait ramené l'enfant à la vie, à grands coups d'alcool et de tape dans le dos. La petite s'était mise à trembler, secouée de convulsions terribles, puis elle était retombée raide dans les filets de pêche. Pas de nom, rien qu'un morceau de fille avec des cheveux trop longs. Grum l'avait gardée.
Thank you.
Nous sommes de retour avec Audrey Wilhelmy pour le troisième segment de notre émission. Audrey, si vous deviez identifier les auteurs marquants ou les livres marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice ou d'écrivaine, hormis peut-être Anne Hébert, quels sont les noms qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
Je dirais, en fait, essentiellement Michel Tournier et Alessandro Baricco, pour deux raisons très différentes. Michel Tournier, notamment avec Le Roi des Aulnes, puis un livre dont, malheureusement, j'ai oublié le titre, mais qu'il a écrit à propos des rois mages. Mm-hmm. Je pense que c'est Melchior, Gaspard, Balthazar, quelque chose comme ça. M'intéresse beaucoup pour la réécriture qu'il fait lui-même des mythes
oui,
et des
très,
contes.
Dans son travail, c'est très prégnant.
On a un univers complètement, complètement différent, mais il reste que ce travail-là qu'il fait sur les réécritures de grands textes et de grands concepts humain m'intéresse beaucoup. Et je dirais Baricco pour la question de l'esthétique sonore de ses textes, essentiellement. Parfois, je trouve que c'est un peu trop, mais reste qu'il y a un travail sur le son, sur le rythme narratif, puis tout ça qui m'intéresse beaucoup. Je pense à City, notamment, aussi, dont là, la structure du roman est complètement éclectique. Océan-mer, exactement. Moi, mettons, Soie ne m'a pas beaucoup parlé, mais dans des romans où c'est plus intense un petit peu, là, ça me plaît beaucoup ce qu'il fait. Puis Sansan aussi, qui est super intéressant. Et Les Châteaux de la colère. En fait, il y en a plusieurs que j'ai beaucoup aimé de lui. Enfin, il y a peut-être, dans un autre point de vue, qui est un petit peu plus... littérature pas populaire, mais plus, en tout cas plus accessible, moins littéraire. Il y a José Carlos Somoza, qui est un auteur espagnol actuel, qui écrit, en fait, qui construit des univers très singuliers où la question de l'érotisme, de la violence reste très traitée de façon très pudique, mais qui sont omniprésents dans tout l'univers et qui, à travers ça, rejoignent un petit peu mes textes aussi.
Les thématiques. Ouais. Merci. En contrepartie, Audrey, parce que comme tous les mois, je suis un peu curieuse de mieux connaître mes invités en tant que lecteur. Alors, j'oserais vous demander quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'Audrey Wilhelmy.
J'aurais tendance à dire que ça en étonnera sans doute plusieurs, d'autres en seront pas surpris. J'ai une magnifique collection de livres pour enfants.
Ah bon?
des livres illustrés, des albums essentiellement, puis des albums notamment... J'ai tous ceux de Rebecca D'Outremer, qui est une illustratrice que j'admire sans limite. Et c'est ça, j'ai une très belle collection de livres illustrés. Et maintenant, j'ai deux belles filles, mais avant, je n'avais pas d'enfants et j'avais déjà ces livres-là à la maison.
Ben, c'est fascinant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à notre écrivaine invitée, Audrey Wilhelmy. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.